Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
Good morning business. French Tech.
Et le New Space est aussi français. Désormais, on a plein de start-up du spatial, dont vous, effectivement, Stanislas Maximin, PDG de Latitude, avec un premier succès. Le moteur de votre mini-fusée Zephyr a montré qu'il pouvait fonctionner au moins 35 secondes, ce qui apparemment est la preuve de son succès. Vous allez nous expliquer pourquoi. Et effectivement, on parle des micro-satellites qu'il faut placer en orbite basse. On sait qu'on est un peu en panne en ce moment en Europe et que peut-être que Latitude va porter la solution.
On l'espère bien. Merci beaucoup de me recevoir. Alors oui, pour être très rapide sur ce que fait Latitude, on est une entreprise qui a maintenant 3 ans. On est basé à Reims, plus de 70 personnes et on développe Zephyr, un petit lanceur, un micro-lanceur qui peut envoyer une grosse centaine de kilos dans l'espace. Ça va donc permettre d'envoyer des satellites qui font la taille d'une boîte à chaussures, à la taille globalement d'un lave-vaisselle. Et ces satellites, ils vont prendre des photos de la Terre, ils vont communiquer avec les objets connectés ou avec votre téléphone pour vous apporter de la connexion et plein d'autres applications qui nous aident tous les jours à mieux comprendre notre Terre. Maintenant, pour les envoyer, il faut une fusée, un lanceur que vous voyez sur l'écran. Qu'est-ce que c'est globalement ? C'est un gros tube avec au bout des moteurs. Une des parties les plus complexes, c'est notamment ce moteur. Pourquoi ? Parce qu'on est sur une pièce qui voit des conditions infernales, littéralement, plus de 3000 degrés à l'intérieur du moteur, largement plus de 50 bars, donc 50 atmosphères de pression à l'intérieur du moteur. Bref, c'est l'enfer sur Terre, littéralement, et il faut faire en sorte que ça tienne.
Et là, ça a tenu 35 secondes, je reviens à ça. Et là, ça veut dire que ça fonctionne.
Alors, le moteur devra tenir un peu plus longtemps en conditions de vol. Par contre, 35 secondes, ça nous permet de dire, on a tout un système de refroidissement, une régénération. Au bout de 35 secondes, on a de quoi dire, on a les data pour dire que globalement le moteur ne va pas monter plus haut en température, ne va pas avoir de plus grosse dégradation thermique ou mécanique. Donc en effet, le moteur tient, et ça c'est une excellente nouvelle. Maintenant, il n'y a pas que ça, il y a également le fait que le moteur il soit stable dans sa combustion. Un moteur, ça veut faire qu'une seule chose, c'est exploser. Là, il n'explose pas, il est stable dans les conditions qu'on lui met, puis également dans des conditions pas forcément faciles quand on était dans le nord de l'Écosse, dans les îles Shetland. Et puis en plus de ça, ça confirme également tout le design. Le moteur, il est complètement imprimé 3D en seulement 3 pièces en fusion métal. Oui. Donc en plus, il fallait prouver ça. C'était pas évident. On est quand même dans la température à l'intérieur, deux fois la
grosse avancée.
Anthony, c'est passionnant.
Mais oui, d'un point de vue technologique, c'est absolument fascinant. Et puis d'un point de vue business aussi, parce que j'imagine que derrière, l'enjeu, ça va être de pouvoir envoyer plus de satellites et donc de faire baisser aussi les coûts de lancement. J'avais lu que le coût moyen, c'était 50 000 $ par kilo aujourd'hui et que vous vouliez faire baisser les coûts à 10 000 $ par kilo. C'est ça l'idée ?
Alors, pour du 10 000, on va plutôt être sur des lanceurs, on va dire un peu charter, type SpaceX, etc. Avec le défaut de pas pouvoir choisir son orbite, on est donc sur du transport en commun qui sert beaucoup de clients, mais qui vous êtes pas si vous voulez aller de l'autre bout de Paris et que vous êtes desservi par pas la RER A. Nous, on va plutôt être sur quand même du vol dédié pour des clients qui veulent envoyer à des endroits un peu bizarres leurs satellites, mais c'est une grande partie des clients. En tout cas, qui sortent de l'endroit classique. Et donc là, non, on va être un peu plus que ça. Par contre, on est largement en dessous des 50 000 $ le kilo. On va s'approcher des 35, ce qui reste aujourd'hui bien plus performant que nos concurrents.
Alors, ce qui est fascinant, c'est de voir effectivement que ça y est, le secteur privé, mais ça on le savait, investit le spatial, que les start-up investissent le spatial. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que le CNES vous suit, puisque vous faites partie des 7 entreprises européennes retenues, justement, pour intégrer notamment le centre spatial guyanais.
Tout à fait.
Donc bientôt, vous allez lancer depuis Kourou ?
On l'espère, on accélère les travaux avec notre agence spatiale, justement pour permettre ça. Donc c'est un grand plaisir, un grand honneur d'avoir été sélectionné.
Est-ce qu'on peut pallier les carences d'Ariane, par exemple, et des lanceurs Vega ? Est-ce que vous allez pouvoir lancer des satellites à peu près de même taille que ce que faisait Vega ?
Alors non, Vega aujourd'hui, ça peut envoyer entre une tonne 5 et 2 tonnes, donc on va pas pousser
la machine à laver, quoi. Ouais.
Non, aujourd'hui, on a un vrai souci. On n'a plus de lanceurs en Europe, et ce pendant encore probablement 1 an et demi, 2 ans. C'est une complexité énorme, également pour nos clients. Moi, ça me rend pas heureux d'être dans ce marasme-là dans le secteur des lancements. Maintenant, ce qui est fait, ce qu'il faut, ce que ça montre, numéro un, c'est qu'il nous faut de la résilience, c'est-à-dire qu'il faut de nouveaux entrants sur le marché qui vont pouvoir apporter de nouvelles technologies, qui vont pouvoir bénéficier des effets de levier de l'investissement privé, et donc qui vont pouvoir éviter à l'Europe de se retrouver dans la même situation qui, aujourd'hui, nous emmène à contractualiser chez SpaceX des lancements européens.
Et justement, le New Space, c'est aussi une guerre des cerveaux. Il y a beaucoup, beaucoup de concurrence, beaucoup de start-up qui se lancent. Enfin, comment vous faites pour que vos ingénieurs partent pas chez SpaceX typiquement.
Alors on a la chance que c'est pas si simple la limite des frontières, c'est-à-dire que SpaceX recrute très peu des étrangers, mais de par les contrats de défense américains, même s'ils le font parfois. Factuellement, c'est en effet un vrai enjeu. On passe énormément de temps à nous focaliser sur le recrutement, recruter les meilleures personnes, et puis derrière aussi les mettre en valeur, les valoriser, en tout cas du mieux possible. Mais c'est en effet un enjeu, et on entend beaucoup d'entreprises un peu plus historique se plaindre du manque de talent sur le
marché. Pour compléter la question d'Anthony, j'aurais été encore plus direct. Est-ce que Elon Musk a déjà appelé Stanislas Maximin?
Non, je sais qu'ils nous connaissent de sources sûres, mais pas à ce niveau-là non plus.
Bon. Ça va peut-être venir. Si vous avez Twitter, ça peut peut-être marcher.
Il peut m'envoyer un DM sur
Twitter. C'est quoi les prochaines étapes maintenant que le moteur fonctionne, que vous avez prouvé que c'est stable? Vous avez un calendrier?
Absolument, on a un calendrier. Ce moteur, on va continuer à le tester parce que là, on l'a testé en tout une soixantaine de secondes, ce qui est pas mal. En essais cumulés. Maintenant, il va falloir continuer des essais. Donc, on retourne en essai en avril. On modifie un petit peu le design. C'est l'avantage de l'impression 3D. Hein. On relance un moteur en impression et puis c'est reparti. On va légèrement modifier le design pour améliorer ses performances. Une fois que ça c'est fait, on valide le moteur de vol. Ça, c'est pas le moteur de vol. Le moteur de vol est un peu plus puissant. On va valider ce moteur en juin. Une fois que c'est fait, on le teste à la fin de l'année 2023. On fait toutes les batteries de test, lanceur, courant de l'année 2024, voire début 2025, et on va au premier vol début 2025.
Et levée de fonds ?
Et également les levées de fonds qui vont aller avec, c'est clair, cette année, l'année prochaine.
Il vous faut quand même 150 millions d'euros d'ici 2027 pour mener à bien le programme.
Ouais, à la fois finaliser le développement lanceur, puis également industrialiser, parce que c'est pas juste faire un lanceur puis se dire on arrête. Non, c'est industrialiser des lanceurs sur le long terme.
On y arrive parce que c'est quand même un business très risqué, le business d'épuiser. On voit même que même Ariane est en panne. Donc vous arrivez à trouver des investisseurs qui vont vous donner 150 millions à la in fine.
C'est une bonne question. Alors forcément, c'est beaucoup plus dur que des boîtes SaaS ou des marketplace, se le cacher. Mais c'est aussi, ça fait partie du défi. C'est-à-dire que si c'était simple, on ne l'aurait pas fait et ça ne nous aurait pas amusé. On a la chance d'avoir des investisseurs qui ont une vision plus long terme, qui ont une vision de la souveraineté, qui ont une vision de la compétitivité technologique et industrielle française. Et puis, on est aidé aussi par tout cet engouement côté BPI, puis côté gouvernement, qui veut réindustrialiser la France. Le spatial est une industrie qui exporte plus qu'elle n'importe, et c'est une industrie d'excellence. Donc, je pense que on
a... Vous parlez avec une grande conviction. Ça donne envie de vous suivre quand même.
Elle est prête à mettre une partie des 150 millions.
Écoutez, pas de soucis, n'hésitez pas.
Bon, en tout cas, voilà, le New Space version française avec vous, Stanislas Maximin, PDG de Latitude. Une bonne nouvelle quand même, c'est que a priori, il n'y aura pas de récession en 2023, c'est ce que est en train de nous dire le FMI.
Que donc, ça va être une bonne nouvelle. Le FMI change souvent d'avis.
Oui, c'est vrai, c'est pas faux non plus.